c'est Explose le cadre, le podcast qui booste votre niveau de confiance pour vous aider à prendre votre place. Chaque mois, je questionne des femmes inspirantes que je nomme affectueusement les Farfaites. Ces femmes qui ont su dépasser leurs peurs, s'affranchir du regard des autres et gravir des montagnes pour réaliser leurs rêves. Elles partagent avec nous leur vécu, les expériences marquantes de leur vie et leurs meilleurs conseils. Explose le cadre, c'est plus qu'un podcast. C'est un show enrichissant et divertissant qui vous aide à passer concrètement à l'action pour devenir une femme plus confiante, forte et audacieuse. L'objectif ici est de revisiter nos croyances limitantes pour littéralement exploser notre cadre. Ici, pas de chichi, nous sommes là pour bâtir notre avenir et concrétiser nos rêves. Alors, c'est parti! Moi, c'est Christelle. J'ai créé ce podcast avec pour ambition de vous faire sortir de votre coquille et de vous aider à vous reconnaître et à considérer vos valeurs. J'ai, depuis ma plus tendre enfance, manqué cruellement de confiance en moi et d'estime de moi. Mon jeu préféré était celui de la souris. Vous savez, la fille qui rêve d'être invisible aux yeux des autres. Mais pas facile quand on a un profil atypique. Je me dévalorisais sans cesse et me jugeais durement, que ce soit physiquement comme intellectuellement. Mon dicton préféré était « je suis trop nulle ». Mais j'ai depuis eu la chance de découvrir à l'âge de 11 ans le développement personnel au travers de la sophrologie. Et je dois dire que ça a transformé ma vie. Après des années et des années de travail sur moi, je suis de plus en plus sensible à la souffrance des femmes qui m'entourent et qui vivent encore ce sentiment dévastateur. Aujourd'hui, je souhaite synthétiser tous ces apprentissages au même endroit et sous une forme ludique, mais surtout sans prise de tête. Voyez cette capsule comme un bon moment entre amis, un bon verre à la main et une ambiance musicale funky. Alors maintenant que le cadre est posé, je vous propose de commencer. Vous écoutez l'épisode numéro 7. Bienvenue! En première partie de cet épisode, nous recevons Evelyn Tan. En deuxième partie, mon acolyte Sylvain, coach de vie, nous présentera son avis et ses conseils pour appliquer dès aujourd'hui les enseignements prodigués par notre invité. Et enfin, je conclurai sur la rubrique plan d'action dans laquelle je vous propose des étapes claires et simples à mettre en application en attendant l'épisode du mois prochain. Alors, n'attendez plus et comme le disait Oscar Wilde, agissez et prenez votre place parce que les autres sont déjà prises. Evelyne, bonjour.
Bonjour. Bonjour Christelle, bonjour à toutes et à tous.
Alors, je commence mes interviews en général par ce que j'appelle une prise de température, mais en vrai, il s'agit plus d'une prise de confiance. Alors, Evelyne, dans ta vie de tous les jours en général, à combien estimes-tu ton niveau de confiance en toi sur une échelle de 1 à 10?
Je dirais 7.
Super. Pour continuer à faire plus ample connaissance et à ce que nos auditrices apprennent à te connaître, je poursuis avec un petit portrait chinois.
Ça tombe bien.
Exactement. Pour continuer à faire connaissance. Alors, Si tu étais un dessin animé.
Waouh, là, ça fait longtemps. Hein. J'en ai pas en tête. Je sais plus comment il s'appelle, mais le petit garçon là qui part avec son grand-père dans sa maison, qui est tiré par les ballons.
Oui,
c'est un dessin animé. C'est un, oui, voilà. Bon, c'est un film d'animation, mais voilà. Je dirais celui-là.
Ok,
Super. Si tu étais une mauvaise habitude.
Me poser des questions.
Ouais. Si tu étais un
mauvais,
paysage.
Mais...
Non, c'est pas.
Un paysage. Un paysage vert, plutôt. Des arbres.
Si tu étais un sport.
La danse.
Si tu étais un animal.
Un chat.
Si tu étais un livre.
Bah, je suis retombée sur le bouquin Les 4 accords Toltec, là, dernièrement, donc je dirais celui-là.
Si tu étais une pièce de la maison.
Le séjour.
Si tu étais un élément.
Le feu.
Et si tu étais une cause.
L'inclusion.
Merci pour ce partage. Et entrant dans le vif du sujet, que fais-tu dans la vie, Evelyne ? Qu'est-ce qui t'anime ?
Alors, ce que je fais dans la vie et ce qui m'anime, donc j'ai la chance de pouvoir faire les deux. Aujourd'hui, donc je suis coach professionnelle. J'accompagne des cadres dirigeants, des hauts potentiels qui évoluent en entreprise. Et donc, je les aide à travers leur vie professionnelle, de l'orientation, la prise de poste, au fait d'interagir avec les autres sur le lieu de travail. Qui parfois n'est pas évident pour tout le monde. Se sentir mieux en étant soi, parmi, avec les autres.
Un sacré programme. Et juste pour nous éclairer, est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est un haut potentiel ?
Alors, il y a deux notions. Il y a les hauts potentiels intellectuels sur lesquels il y a pas mal de choses qui ont été communiquées dans les médias, etc., dernièrement, profil atypique. Et il y a les hauts potentiels entreprises. Donc, ceux-là sont, comme moi je les qualifierais, donc des personnes qui ont été identifiées par l'entreprise pour leurs compétences, leur envie d'avancer, d'évoluer au sein de l'entreprise et qui font partie parfois d'un programme de développement, de compétences, etc. Donc, je vois un peu les deux notions avec parfois un recoupement entre les deux. Des hauts potentiels qui évoluent en entreprise peuvent être aussi HPI et mais l'un n'est pas l'autre, mais il peut y avoir une intersection entre ces deux populations.
En t'écoutant, une question qui me vient, est-ce que c'est ce profil de personne est plutôt sujette en entreprise à du burn-out ou plutôt à du bore-out, étant donné leur capacité multiple?
Justement, c'est intéressant. Je pense que c'est un peu des deux, en fait. Vu de ma fenêtre par rapport à ce que j'ai pu voir, c'est peut-être une population qui est peut-être plus sujette à du bore-out et du burn-out par rapport à, l'ensemble, par rapport aux autres, je vais dire. Parce qu'il y a ce besoin de trouver du sens. Et donc, si on ne le trouve pas, ça peut mener à du bore-out. Il y a aussi le fait d'avoir des niveaux d'exigence qui peuvent être parfois élevés, de prendre à cœur des choses qui ne sont pas pour d'autres. Et de se lancer parfois au détriment de sa propre santé ou de ne pas voir ses propres limites et de parfois d'aller jusqu'au burn-out. Donc je dirais que je verrais plutôt un peu des deux, quoi. Enfin, pas forcément l'un ou l'autre, mais je trouve que cette population peut être plus sujette à ces deux phénomènes en entreprise.
Et qu'est-ce qui t'a fait choisir justement cette cible ? Est-ce que c'est parce que toi-même tu es haut potentiel ?
Alors, oui, tout à fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé ma carrière dans un grand groupe international dans lequel j'ai été flaguée au potentiel, dans le sens où on voyait en moi un potentiel d'évolution au sein de l'entreprise, etc., prendre des postes à responsabilité. Donc, là, c'était le premier indice, mais auquel je me suis pas du tout, j'ai pas du tout tilté, en fait. Et ensuite, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce que j'aimais faire, c'était accompagner les hauts potentiels qui évoluent en entreprise, parce que j'y étais. Donc, c'était plus par affinité. Et puis, comme ça, il y a un beau jour, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, il y a quelques mois, il y a une personne qui m'a dit mais depuis quand tu sais que tu es au potentiel? Et moi j'ai dit mais je suis pas concernée de quoi tu me parles. J'aime beaucoup travailler avec ces personnes, mais c'est voilà, c'est tout. Et puis finalement j'ai commencé à voilà connecter, comme on dit, connect the dots, tu sais, à me dire tiens, moi, c'est drôle quand même, je me suis intéressée au sujet, tout ça. Et effectivement, bah, j'ai fait mon bilan il y a quelques semaines, et bon, bah, je suis ressortie comme au potentiel entre guillemets. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, ça me permet aussi de, bah, ça m'a permis de mieux me connaître et puis de faire des liens entre ce que je faisais déjà naturellement et finalement qui je suis, mon mode de fonctionnement, etc. Donc, pour répondre à ta question, oui.
Quel est ton but, ton pourquoi au travers de, bah, de ce métier et de cet accompagnement que tu proposes?
Bah, moi, ce qui me fait lever le matin, c'est d'accompagner chacun, bon, au potentiel ou pas, c'est pas forcément le comment dire, je ne souhaite pas, enfin, mon souhait, ce n'est pas d'être clivante, au contraire, si je suis pour l'inclusion. C'est peut-être parce que, voilà, venant de là où je suis, je comprends sans doute mieux les problématiques que ces personnes peuvent rencontrer. Et ce qui me fait lever le matin, donc, c'est de les aider à mieux se connaître, à trouver pleinement leur place, du sens à leur vie professionnelle, mais aussi, bien sûr, d'autres aspects. Mais généralement, c'est peut-être l'angle par lequel ils viennent me voir. Et voilà, et à tout simplement trouver le juste équilibre avec qui on est dans sa singularité et dans le fait de vivre avec les autres, quoi. Et chacun a un équilibre un peu différent qui évolue aussi dans le temps. Voilà. Et pour moi, c'est une façon de contribuer à voilà, un monde plus harmonieux, avec plus davantage de tolérance et de favoriser l'inclusion par ce biais.
Est-ce qu'aujourd'hui, dans ta vie de tous les jours, tu éprouves encore des peurs ou des difficultés? Et si oui, comment utilises-tu tes outils de coach à titre personnel?
Alors, des difficultés, oui, dans le sens où voilà, il y a des situations inconnues, il y a des situations, par exemple, avec des relations pas toujours faciles. Par exemple, quand on rencontre des personnes en entreprise, des clients, même dans le cercle personnel, qui peuvent me faire voilà, poser des questions sur ou comment dire, me déstabiliser. Aujourd'hui, déjà dans mon parcours en tant que coach, ça m'a beaucoup permis de prendre du recul. Donc aujourd'hui, ça arrive, mais je le prends plus avec pas philosophie, mais avec plus de recul. Donc ça m'atteint beaucoup moins. Voilà. Et puis si je reviens aux accords Toltec dont je parlais tout à l'heure, voilà, c'est le fait de ne pas faire de suppositions. C'est-à-dire si j'ai un doute, bah du coup, ou si j'ai pas compris une remarque, par exemple, et ben du coup, de poser la question, d'expliciter les choses de façon constructive, et aussi voilà, de ne pas le prendre personnellement. Donc ce que dit la personne lui appartient. Ce qui n'est pas toujours évident dans la vie de tous les jours, mais c'est des choses que je suis de plus en plus à même de faire sur le coup, voilà, ou même pas longtemps après, sans me laisser atteindre, voilà, de façon durable, quoi. Voilà, ce sont des événements qui arrivent et que je prends avec plus de philosophie, de sérénité, quoi.
Et quand tu as un coup de mou, une petite déprime, si ça arrive encore, comment tu gères ça?
Bah moi, ma façon de gérer ça, c'est d'en parler avec des personnes qui sont proches de moi. Des amis proches, bon, mon mari. Enfin, c'est vraiment de m'appuyer sur mon réseau de soutien. Voilà, des personnes qui grâce à elles, me permettent de me souvenir de me raccrocher à qui je suis, à trouver du réconfort, voilà.
Donc, de pas rester isolé vraiment ou se refermer sur toi, tu vas aller justement chercher à exprimer, à extérioriser ce mal-être entre guillemets auprès de tes proches, auprès de personnes dont tu as confiance pour justement faire sortir tout ça.
Voilà, c'est ça, de partager ce que je ressens à des personnes avec qui je sais que ça va bien être accueilli. Pour moi, voilà, elles font partie de mes ressources, quoi. Quand ça va et que j'ai des choses, ouais, des succès à partager, ben, ça me fait plaisir de le faire avec elles. Et dans le même temps, lorsque voilà, j'ai des contrariétés, ben aussi le fait d'en parler avec elles, ça me permet de me rebooster.
En ce sens, aurais-tu une pratique ludique à partager à nos auditrices pour dépasser leur peur et réussir à s'auto-coacher en cas de difficulté?
En ludique, je ne sais pas, mais ce qui peut aider, c'est peut-être de prendre une feuille, d'écrire en gros ce à quoi on va arriver en fait à la fin de cet auto-coaching. Par exemple, si j'ai du mal à faire un choix entre une chose et l'autre, ça me stresse ou ça me fait douter, etc. C'est vraiment de prendre une feuille de papier, d'écrire ça, de dire, voilà, à la fin de cet auto-coaching, ce que je veux, c'est pour être clair par rapport à ma décision et me sentir bien avec la décision que je vais prendre. Donc de l'écrire vraiment en grand et de revenir à ce qu'on souhaite, quoi. C'est-à-dire, voilà, quel est le plus important pour moi si je me projette dans 3, 6 mois, 1 an, finalement, qu'est-ce qui va être vraiment important pour moi, de revenir à ses valeurs, ses priorités dans la vie, et puis de regarder ses choix par rapport à ce qui nous guide, ce qui va nous guider dans les prochaines semaines, les prochaines années, etc. Parce que une fois projeté dans le futur, quand on regarde derrière soi, on se dit bon bah voilà, la question qui me taraudait pendant 3 semaines, finalement, quand je regarde derrière moi, bon, ben voilà, il s'est passé tout ça. Et donc, ça permet de prendre du recul et de remettre en perspective une décision dans tout le contexte de sa vie, pro, perso, etc.
Donc, en gros, de bien définir ses valeurs, déjà, pour savoir si une action est en relation avec ses valeurs, définir ses objectifs, et en cas de doute ou de difficulté, justement de reprendre tout ça, de le noter et vraiment d'identifier voilà, sa priorité à l'instant T pour éviter de se perdre.
Oui, parce que c'est vrai que quand on prend une décision, que ce soit un choix de carrière, n'importe quoi, c'est jamais les mêmes critères qui sont dans la balance. Enfin, on ne compare pas deux pommes ensemble. Ça va être une pomme avec une banane, j'en sais rien. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, on va pas faire une analyse voilà très très poussée, très comment dire, très rationnelle quelque part, parce que on va comparer des choses qui sont très très différentes, et du coup oui, le fait de bien se connaître, de se dire voilà, qu'est-ce que je veux pour moi finalement, qu'est-ce qui est le plus important pour moi, ça permet de regarder les événements qui nous arrivent avec un angle différent, quoi. Et peut-être de faire des choix qui sont plus en accord avec soi.
Le métier de coach aujourd'hui est quand même un métier, j'ai envie de dire, en vogue. Et j'ai pour habitude, en tout cas, j'ai une philosophie de me dire que nous tendons tous à un moment donné à être le coach de quelqu'un. On est un peu tous le coach l'un des autres, enfin les uns des autres. Mais est-ce que pour toi, un coach, en fait, pour toi, quelle est ta propre vision en fait de ce métier de coach? Est-ce que bah voilà, c'est propre à chacun, ou est-ce que on va pouvoir y mettre à chaque fois sa touche, sa vision, et sortir un peu du cadre s'il en existe un?
Alors sur le coaching, je trouve que chaque individu va y mettre sa touche quelque part, avec qui il est, avec ses comment dire, sa vision des choses, par exemple des outils des approches qui vont être un peu différentes, une sensibilité qui va être différente, sa personnalité aussi. Il y en a qui vont être peut-être plus doux dans leur approche et d'autres qui vont être plus confrontants pour faire avancer le coaché. Donc, moi, je trouve que ça dépend beaucoup de chacun, finalement. On y met beaucoup de sa personne en termes de personnalité, etc. Donc,
si à un moment donné, on est tenté d'être accompagné, de se faire accompagner par un coach, ça va vraiment dépendre au final de l'affinité qu'on a avec cette personne et peut-être des méthodes ou des outils qu'elle propose.
Oui. La partie fit, l'alchimie entre le coach et le coaché est assez importante, je trouve, dans un sens comme dans l'autre, hein, d'ailleurs. Hein. Voilà, il y en a qui vont peut-être, par exemple des coachés qui vont peut-être aller chercher chez un coach sa légitimité, voilà, s'il a tant d'années d'expérience, s'il a telle certification ou expérience dans telle industrie, même si finalement pour coacher, il n'y a pas besoin de ça, mais bon, c'est ce que le coaché va aller chercher par rapport à ce qui est important pour lui. Et ça se respecte, quoi. Donc, voilà. Donc chacun va aller projeter et chercher quelque chose qui est important pour lui, pour tisser une relation de confiance de manière à être accompagné par un coach.
Selon toi, tu nous disais que les hauts potentiels ont besoin notamment de trouver du sens dans leur vie, dans leur travail, dans ce qu'ils font et que c'est quelque chose d'assez prenant. Et donc, selon toi, quels sont les signes que nous ne sommes pas à notre place dans notre activité professionnelle? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on se dit non, ça ne va pas, il faut arrêter là?
Ça peut être, c'est intéressant. Non, ça peut être l'accumulation quand on commence à s'ennuyer, par exemple, ou tout simplement, à un moment donné, quand on se rend compte qu'on ne comprend pas ce à quoi on sert, se trouver inutile, ce sentiment de se trouver inutile. Il y a aussi des événements aussi qui peuvent faire en sorte que ça déclenche un déclic et puis on se dit mais qu'est-ce que je fais là, par exemple des crises, par exemple j'ai eu un client qui me dit ce qui se passe en Ukraine et ce que je fais aujourd'hui dans mon travail, je trouve que demain si il peut y avoir une crise, même les enjeux climatiques, avec tout ce qui se passe dans le monde. Voilà, moi, je suis là en train de travailler sur mon PowerPoint à déplacer la virgule à gauche ou à droite. Je vois vraiment pas l'intérêt de ce que je fais. Donc, quand on commence à s'ennuyer ou à se demander en quoi ce que je fais est utile par rapport à ce que je vois autour de moi et qui me touche, ça peut être le moment de se poser des questions sur dans quelle mesure est-ce que je peux trouver quelque chose qui soit plus en ligne avec ce en quoi je crois, ce que je sais faire, en quoi je peux être utile de façon différente, etc. Et il ne s'agit pas toujours de faire un changement drastique, hein, parce que j'en vois certains qui me disent mais je ne veux pas faire tout de suite changer complètement, etc. Mais il n'y a personne qui demande à ce que vous démissionnez demain. Pour certains, peut-être que ça va se passer de cette façon, mais dans plein d'autres cas, c'est une transition. Il y a des transitions qui s'accompagnent de façon progressive, rassurante. Il n'y a pas besoin de se faire une frayeur comme si on se jetait dans le vide, quoi. Donc on se calme, on pose des choses, on peut discuter et trouver la subtile dose qui va nous permettre de bouger, quoi.
Justement, j'allais y venir. Est-ce que quand on ressent voilà ce truc de se dire je suis pas à ma place, je m'amuse pas super dans mon activité professionnelle, mais en même temps j'aime le cadre ou voilà il y a quand même des choses qui me plaisent dans ce que je fais, mais j'ai besoin de changement ou de trouver plus de sens. Est-ce que tu aurais un exemple, par exemple, d'un de tes coachés qui n'a pas été jusqu'à la démission, mais qui a réussi à adapter son poste ou des choses comme ça pour continuer à faire ce qu'il faisait, mais de manière plus épanouie?
Oui. Quand je vois justement chez certains coachés ce type de problématique, ce qui est intéressant aussi, c'est de se poser la question de comment il ou elle exprime ses envies, demande à faire autre chose. Et là, on en vient à l'assertivité, le fait de pouvoir, dans quelle mesure est-ce que je suis en capacité d'exprimer ce que je souhaite sans être agressif, sans, mais tout en faisant passer mon message. Dans ces cas-là, on peut travailler sur exprimer mon besoin, ma demande, soit au sein de mon entreprise, aujourd'hui, je me sens pas forcément à ma place. J'aimerais pouvoir contribuer d'une manière différente. Dans quelle mesure est-ce que ça peut être envisagé? Et d'avoir une discussion assez ouverte et posée sur le sujet. Ce qui peut se passer parfois, c'est que comme la personne, elle est pas forcément bien depuis quelque temps, il peut y avoir une accumulation d'émotions, de ressentis qui peut faire un peu cocotte-minute, quoi. Donc, et du coup, après, de véhiculer un message qui est pas forcément constructif pour elle, pour l'environnement. Donc, de façon à maximiser, on va dire, ses chances de faire passer un message et d'obtenir ce qu'on veut, ça peut valoir le coup, de formuler son message de façon différente, de le préparer de façon à optimiser ses chances d'obtenir ce qu'on veut. Après, c'est possible ou c'est pas possible, mais au moins, il n'y a pas de regret par rapport à ce qu'on aura pu exprimer. Et parfois, ça se passe très très bien. Il y a des personnes qui ont changé de rôle, de type d'activité au sein de l'entreprise, ça leur convient mieux, et puis c'est tant mieux.
Justement, quand on fait appel à toi, est-ce que c'est via l'entreprise qui te contacte pour voir si, au sein de l'entreprise, la qualité de vie, c'est un grand mot, au travail, est respectée? Est-ce que les salariés sont satisfaits ou pas? Ou est-ce que c'est une démarche personnelle de la personne qui a envie de se sentir mieux dans son secteur professionnel qui fait appel à toi? Comment ça se passe?
C'est les deux, ça peut être les deux. Donc, soit parfois, ça peut être un manager d'équipe, par exemple, qui veut davantage intégrer une personne de son équipe, l'aider à se positionner pour que l'ensemble de l'équipe fonctionne bien. Parce que, étant donné que c'est un système aussi et qu'ils évoluent dans un cadre, justement donné, si tout le monde peut trouver sa place et fonctionner de façon à y trouver son compte, etc., tant mieux. Donc là, c'est plutôt via une entreprise. Et ensuite, il y a des personnes qui, en direct, me contactent parce qu'elles se posent des questions qui peuvent être plus larges est-ce que je fais, ça ne me plaît plus, mais alors je ne sais pas quoi faire d'autre. Ou alors, ça peut être aussi de se positionner différemment au sein de son environnement actuel.
Quand c'est une démarche personnelle et qu'au final, au travers des échanges que tu as avec la personne, tu te rends compte que c'est peut-être juste ce besoin d'améliorer un peu son cadre de vie au travail, est-ce que tu vas intervenir auprès d'un responsable direct si le coaché, il se rend compte qu'il a besoin de changer de poste ou autre? Est-ce que toi, à un moment donné, tu vas intervenir quand c'est une démarche personnelle?
Non. Dans tous les cas, dans la relation de coaching, moi, j'accompagne la personne à trouver ses propres solutions. Je n'interviens pas entre le coaché, son manager, que ce soit un client particulier ou un client entreprise. Et c'est là que c'est important de garder une certaine éthique. et de ne pas rentrer dans des jeux de pouvoir ou des enjeux qui ne seraient pas posés dès le départ, quoi. Voilà, donc en tant que coach, j'accompagne un coaché dans son développement professionnel, personnel. Ensuite, c'est à lui de prendre les choses en main de la façon dont il le souhaite, et je l'accompagne pour ça, c'est-à-dire comment formuler son message, qu'est-ce qui peut se passer, l'aider à voir si ça se passe comme ça, du coup, comment tu réagis, si ça se passe pas du tout comme tu l'as souhaité, comment tu réagis, le fait de pouvoir voir sa situation suivant des angles différents, ça va aussi lui permettre de se sentir plus préparé et plus confiant dans sa façon de s'exprimer. Donc, je l'accompagne dans toute cette partie en amont des échanges qu'il peut avoir par la suite et en fonction du choix qu'il fera.
Est-ce que toi, justement, dans ta carrière professionnelle, tu as déjà ressenti ce sentiment de ne pas être à ta place et qui t'a peut-être amené à être coach aujourd'hui?
Oui, tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Donc, je suis globalement contre le gâchis de talent. C'est vraiment une cause qui me parle. Je trouve qu'il y a tellement de diversité en termes de profils, d'envie, etc. Je me dis quand même avec ce collectif, il y a sans doute un moyen de le faire fonctionner. Peut-être en faisant des ajustements, etc. Et du coup, oui, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Quand je vois des personnes qui sont très talentueuses et qui sont pas forcément à la bonne place, je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire, quoi. Que c'est pas juste lié à la personne, mais si on regarde plus le système et le cadre et puis les différents, les interactions, ça vient parfois de là. Donc quelque part, oui, je pense que aussi moi aussi ça me stimule de comprendre des problèmes un peu complexes et puis d'amener une contribution de cette manière, quoi.
J'en parlais tout à l'heure de la qualité de vie au travail. On en parle beaucoup du bien-être, de la qualité de vie au travail. Et toi, justement, quelle est ta position par rapport à ça? Qu'en penses-tu?
Je pense qu'au niveau des aspirations des uns et des autres, je vois dans mes accompagnements que de plus en plus les personnes, peut-être le biais que j'ai, hein, c'est-à-dire j'accompagne quand même plutôt des profils au potentiel, donc ça peut être un biais qui est amené par ça, mais cherchent à la fois à trouver du sens, à s'épanouir professionnellement, mais ne sont plus non plus enclin à tout sacrifier pour leur vie pro, pour l'entreprise. Donc ça me paraît indispensable que ce soit pour les entreprises, mais aussi pour l'individu en soi, de trouver comme je disais l'équilibre entre ce qui me convient, ce qui m'épanouit et l'environnement dans lequel j'évolue. Et pour les entreprises, c'est un vrai enjeu aujourd'hui de pouvoir intégrer ça dans leur culture.
Quel serait ton conseil pour stimuler ce bien-être au travail, justement, et ne pas attendre la situation parfaite, le patron parfait, les collègues parfaits, le bureau parfait?
je trouve que le fait de se mettre dans un état d'esprit, je fais de mon mieux, je progresse. C'est quelque chose qui peut être intéressant à avoir en tête. C'est-à-dire, je vais pas pouvoir. Enfin, au sein de mon environnement, je vais pas avoir la main sur tout. Et d'ailleurs, c'est plutôt sain de se le dire parce que dans le cas contraire, on pourrait s'épuiser pour rien. Enfin, sans les résultats escomptés. Mais de se dire par rapport à ce que je fais. Enfin, on fait tous partie d'un système, d'un environnement. Et le fait qu'on change, nous, qu'on puisse agir sur des choses sur lesquelles on a la main, on va forcément faire bouger ce système. et donc de revenir à ce qu'on a la possibilité de faire nous en tant qu'individu.
Oui, agir à son niveau avec les outils qu'on a à l'instant T dans cet objectif toujours de faire avancer et d'être constructif plutôt que juste de pointer ce qui ne va pas au final.
Oui, de prendre la responsabilité de la situation à son niveau, de se dire « Ok, je choisis d'eux et voilà, d'essayer de faire avancer les choses à son niveau puisque un changement va peut-être en amener un autre. Et voilà, petit à petit, ça peut faire évoluer les choses.
Sur un autre registre, un registre que j'aime bien aborder dans mes interviews, c'est le côté de l'organisation. Mm-hmm. Est-ce que tu as une journée type pour toi, au quotidien ?
Non, je n'ai pas l'impression, en tout cas. Non, j'ai pas l'impression. Après... avec les différentes casquettes que je peux avoir de maman, de professionnelle, etc. Oui, effectivement, il y a des contraintes ou des qui rentrent en ligne de compte. Les enfants, c'en est un. Et ensuite, par rapport à l'organisation, c'est vrai que j'essaie aussi de faire attention à mon rythme naturel. Il y a des plages de la journée où je sais que je vais être plus créative. Pas tant en termes de temps, mais en termes d'énergie, de disponibilité, de créativité. Oui, voilà. Donc, par exemple, moi, je sais que c'est le matin. Donc, le matin, généralement, je me focalise sur l'écriture d'articles. Généralement, c'est le matin, très tôt. Ensuite, ça va être tout sur des sujets qui vont me demander d'être concentré. Et l'après-midi, plutôt dédié à tout ce qui est interaction. Donc, des échanges téléphoniques, des réunions, etc. Donc ça, c'est plutôt l'après-midi que je fais ça.
Ok, donc suivre son rythme biologique, son énergie du jour et avec une phase plutôt, entre guillemets, d'introspection, de concentration le matin et plutôt orientée vers les autres l'après-midi.
Oui, oui, tout à fait. Et je trouve que c'est un aspect qui peut être assez intéressant à regarder. Par exemple, lorsqu'on commence, lorsque je vois, par exemple, chez les personnes que je coach, qui essaient à tout prix de rentrer dans un mode de fonctionnement qui n'est pas naturellement le leur. Alors bon, parfois, ok, c'est pas forcément possible de suivre complètement sa propre organisation parce que il arrive qu'on travaille avec d'autres personnes, mais quand même d'avoir ça en tête, de se dire, moi je sais que le soir c'est plus compliqué pour moi de faire des exercices de synthèse, de faire un rapport détaillé, etc. Je vais travailler d'une manière différente, je vais mettre site un peu partout, en mode plutôt brainstorming, je vais arranger ça d'une certaine façon, plutôt en mode mind map, et je vais présenter ça comme ça. Et voilà, enfin, c'est ça, l'organisation, peut-être dans le sens, et prendre connaissance de son mode de fonctionnement et de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut le prendre en compte dans ce qu'on fait ou ce qu'on a fait jusque-là. Parce que les choses vont peut-être paraître plus faciles, plus fluides.
Ok, donc même si on est en entreprise et donc un peu soumis à un cadre, on a cette possibilité d'organiser son emploi du temps, sa journée, en fonction à la fois de son rythme, à la fois du rythme de l'équipe, par exemple, et vraiment de trouver, on va dire, ce juste compromis entre toujours courir derrière les collègues ou inversement les réunions, les échanges et réussir à structurer, on va dire, un peu plus sa journée en temps de travail personnel, en temps de travail d'équipe.
Mmh. Oui, c'est ça.
Ok, ça c'est quelque chose que je note dans le sens où souvent on dit que d'être entrepreneur, c'est bien parce qu'on peut aménager son temps comme on le désire. Mais c'est vrai que pour moi qui travaillais aussi en entreprise avant, j'avais pour habitude de le faire, ça aussi, de me dire, moi je suis plus, voilà, productive le matin, donc je vais vraiment faire ce qu'il faut le matin. Et à chaque fois qu'on me demandait d'être en réunion, je leur disais, bah, écoutez, si vous, de votre côté, vous n'avez rien de prévu, on se cale ça l'après-midi. Comme ça, on pourra bah, faire le point et planifier la journée suivante ou la semaine suivante les activités à faire. Et donc voilà, je voulais juste partager ça parce que ça me semble important de se dire, même si on est entreprise, on peut y arriver. Et au contraire, de le faire pour soi, ça permet aussi de formater ou du moins d'aider aussi les autres à faire de même pour se concentrer vers une meilleure productivité ou concentration. Et ce qui peut aussi amener à donner plus de sens pour moi à un travail d'équipe.
Et ça favorise bah, aussi l'inclusion parce qu'on est tous différents et le fait aussi de sensibiliser les personnes à ce qui convient davantage à soi. Parfois, certains, c'est parce que voilà, ils n'ont pas pensé, parce que mais sans aucune. S'ils savaient que bah, par exemple tes préférences étaient celle-ci ou celle-là, seraient complètement ok pour s'y adapter. Donc voilà. Mais c'est vrai que même en tant qu'entrepreneur, je dirais là, on a son propre, on a sa journée, on peut la remplir comme on le veut. C'est aussi je pense intéressant de regarder naturellement ce qui nous vient, comment on fonctionne, ce qui est le plus facile pour nous, à quel moment de la journée, quel type d'activité, etc. Pour essayer de voir finalement ce qui. Oui, c'est ça, de trouver sa propre recette, quoi.
Trouver sa place.
Oui.
Aujourd'hui, il me semble, et je pense que oui, les entreprises, comme on le disait, sont beaucoup plus ouvertes à ces questions de bien-être au travail et de justement que le salarié soit à son plein potentiel. Quels sont les types d'entreprises qui aujourd'hui font appel à toi en ce sens?
Moi, j'ai pas mal travaillé là, enfin, ces dernières années avec des entreprises issues de la tech parce que ce sont des domaines qui sont en plein essor, où il y a quand même un sujet autour de la pénurie des talents. Et donc, ceux qui sont là, on prête vraiment attention au fait qu'ils se sentent bien. Voilà, bon, il y a une question de productivité derrière. C'est sûr que quelqu'un qui se sent bien va être plus créatif, va avoir plus envie aussi de contribuer à l'équipe, etc., de proposer des idées. Donc, il y a cette question qui se pose. Et aussi, après, là, c'est aussi ma propre perspective. J'ai aussi rencontré des profils au potentiel dans ce type de secteur. Mais cela dit, c'est aussi le cas dans des grands groupes aussi, où on prend conscience du fait qu'on a beaucoup de profils différents. Et dans un monde qui change, incertain, etc., comme on l'a pu voir ces dernières années en particulier, on se dit, tiens, bah, voilà, comment est-ce qu'on peut être plus innovant, donc sortir du cadre pour imaginer des services, des produits, une façon de faire qui est complètement différente de ce qu'on a toujours fait. Et dans ce cadre-là, c'est important de favoriser la diversité, des propositions différentes, des parcours atypiques qui ont peut-être vu des personnes qui ont peut-être vu des choses différentes, des pratiques différentes, qui seraient intéressant d'écouter, voilà, plutôt que d'amener une façon de voir formatée qui au contraire ne va pas favoriser l'innovation.
Donc, dans ce que tu as pu rencontrer jusqu'à présent, tu as eu à la fois de grands groupes et ouais, à la fois des, je sais pas, des startups ou des PME, des entreprises de plus petite taille.
Oui. Oui, tout à fait.
Ok. Donc c'est vraiment pas ciblé.
Après, il y a peut-être. Après, il y a aussi peut-être mon propre parcours, hein, parce que je suis. Je sors d'une école d'ingénieur en informatique. Je suis ingénieur de formation. Du coup, j'ai travaillé plutôt avec des groupes industriels. Voilà. Donc, il y a peut-être cet aspect-là, quoi.
Ok, mais je trouve ça très intéressant de voir que ce n'est pas forcément réservé à des jeunes entreprises de type start-up ou petites entreprises, mais qu'aussi les grandes entreprises sont ouvertes à ce changement et à cette prise de conscience. Alors, j'ai imaginé un petit exercice. Donc, essayons un exercice de visualisation. Si tu devais imaginer une société où le bien-être au travail serait la norme, quelle serait cette vision ?
Pour moi, ce serait une société où, j'allais dire, où chacun peut trouver sa place, est en mesure de s'exprimer, qui a une certaine écoute de la part de, voilà, du management, des collègues, etc. Qu'il y ait une culture qui favorise l'écoute, la prise en compte peut-être des particularités de chacun. Voilà. Par exemple, la crise, le Covid, etc., a quand même permis de montrer que, a mis en lumière, je veux dire, la différence qu'il peut y avoir entre les situations des uns et des autres. Et je trouve, a beaucoup individualisé la façon dont, par exemple, un manager va gérer son équipe ou dont l'équipe fonctionne. Par exemple, un tel et un tel, bah, eux, ils peuvent très bien télétravailler parce qu'ils ont l'environnement qui va bien. Et pour certains, ça leur convient pas du tout. Ou alors, chez eux, ils ont pas du tout l'espace pour le faire, etc. Enfin, pas les dispositions, on va dire, matérielles pour être bien, du coup, comment on prend ça en compte, donc c'est la prise en compte des contraintes, des besoins individuels. C'est pas toujours évident à faire parce que on a quand même envie de créer un sentiment d'appartenance, mais c'est au moins de se poser la question et d'essayer de trouver des réponses, d'avancer là-dessus. Là, la prise de conscience de cet aspect-là, c'est-à-dire que chacun va être différent. Qu'est-ce que veut dire bien-être pour quelqu'un, par rapport à quelqu'un d'autre ? Pour certains, ils veulent plutôt de l'autonomie dans la gestion de leurs activités, finir à telle heure, etc. Pour d'autres, ils voudraient peut-être travailler 4 jours par semaine. Un tel, il voudra travailler que sur tel type d'activité. C'est de pouvoir créer une culture dans laquelle chacun peut-être s'exprimer, qui va se sentir entendu, et après de discuter, d'échanger ensemble de façon constructive sur comment est-ce que ça pourrait se mettre en place. Que tout n'est peut-être pas possible dans l'absolu, donc comment est-ce qu'on arrive à une situation qui est OK pour les personnes qui travaillent, quoi.
Est-ce que ça signifie de passer à un mode de hiérarchie pyramidale à un mode de hiérarchie plus horizontale ?
Je dirais que la position, le rôle d'un manager d'équipe a beaucoup changé. Parce que justement, pour pouvoir faire ça, ça demande quoi ? De créer un environnement dans lequel chacun se sente en mesure de s'exprimer. Ça veut dire que dans son rôle, par exemple en tant que manager ou même d'organisation, si je pense plus large, ça veut dire que de créer un environnement dans lequel il est possible de dire A ou B et que ça va être reçu, ça va être entendu. Ce qui n'est pas forcément automatique pour certains. Et aussi pour les employés, les salariés qui travaillent, de pouvoir exprimer aussi ce qu'ils souhaitent. Ce dont chacun, et tout le monde n'est pas à l'aise de la même façon pour le faire.
Est-ce que justement tu aurais un outil ou une bonne pratique? On parle beaucoup d'outils d'intelligence collective en ce moment. Est-ce que justement tu as un outil qui pourrait permettre en début de réunion ou au cours d'une journée, de permettre aux gens de s'exprimer et de mettre sur la table leurs besoins.
Ben, il y a une approche qui est assez intéressante à regarder, c'est la communication non violente. L'idée, c'est de transmettre, d'exprimer un message, un besoin, une demande, d'une certaine façon, pour que ce ne soit pas perçu par l'autre comme un message agressif, quoi. Qu'il se sente, que ça le mette sur la défensive. Donc, la première étape, c'est de partager les faits. Donc, plutôt de dire tu es arrivé en retard, mais de dire j'ai vu que, enfin voilà, il était 12h45 quand tu es arrivé. De partager un fait donc qui n'est pas comment dire, qui ne puisse pas être challengé par d'autres, qui est vraiment objectif. Ensuite, de partager ce que ça nous a fait à soi. Donc, je me suis sentie agacée, etc. Et pareil, d'éviter d'utiliser tu. Ensuite, d'exprimer son besoin. Donc, j'ai besoin pour l'équipe que tu arrives à telle heure pour qu'on puisse commencer tous ensemble. C'est important pour moi que chacun sente que son temps est respecté, par exemple, je dis n'importe quoi. Et ensuite, la demande, voilà, est-ce que la prochaine fois, si tu arrives en retard, tu pourrais me prévenir ? Ou encore mieux, en mode co-construction, comment est-ce qu'on pourrait faire la prochaine fois pour que ça n'arrive pas ou, voilà. Donc, c'est une façon d'exprimer un message en enlevant toute la les éléments qui peuvent faire en sorte que l'autre se sente attaqué, et ça le met dans de meilleures dispositions pour ouvrir un dialogue, quoi.
Donc au final, voilà, que chacun s'approprie ce mode de communication non violente pour permettre des échanges beaucoup plus sereins et constructifs au sein de l'équipe.
Oui. Et pour ceux qui gèrent une équipe ou qui font partie d'une équipe avec des profils très différents, c'est aussi de regarder qu'est-ce que naturellement je fais facilement et que je mets au service de l'équipe. Plutôt que chacun dans son coin fait ses petites tâches. Et on sait très bien que, OK, on ne peut pas être parfait partout, enfin, on ne peut pas être bon partout. Donc, c'est ce sur quoi je suis bon. Très bien. Est-ce que je peux l'amener d'une façon peut-être plus systématique ou à d'autres collègues et vice-versa. Si je vois que sur un truc vraiment j'ai du mal et que c'est poussif et que j'y arrive pas, d'aller solliciter un de mes collègues qui serait peut-être ravi de m'aider, quoi. C'est aussi de faire attention à naturellement ce qui est facile pour soi et d'aller chercher auprès des différentes personnes de son équipe. Justement, et là, on fait appel à l'intelligence collective, à l'efficacité collective.
J'ai justement, cette semaine, voire même plus précisément hier, expérimenté un nouvel exercice d'intelligence collective. Alors, j'ai plus le nom, mais c'est un panier, on va dire, faire ses courses. Mmh. Qui vise à ce que chacun écrive sur un post-it un besoin.
Oui.
Donc chacun va aller coller ses post-it de besoin. Alors je dis n'importe quoi, j'ai besoin d'aide en Excel pour m'aider à faire mes tableaux, etc. Et ensuite, chaque personne individuellement va faire la même chose, mais sur ce qu'elle peut offrir à quelqu'un. Donc, je peux offrir 2 heures cette semaine pour former quelqu'un sur Excel. Et chacun va aller regarder les post-it et mettre en accord les offres et la demande au final. Et voilà, pour vraiment utiliser les facilités des uns et des autres, voir en même temps, quand on a une liste de besoins, on a aussi plus de facilité à se positionner, de dire « Ah, mais ça, je sais faire, donc je peux aider la personne. » Parce que c'est vrai que quand c'est facile pour nous, on n'en a pas forcément conscience. Et j'ai trouvé cet exercice très intéressant, justement, au sein d'une équipe, pour exploiter les dons de chacun et, au final, gagner en temps, en productivité, former les uns et les autres, vraiment favoriser l'entraide.
Et puis, c'est aussi un moyen de reconnaître aussi le talent de quelqu'un, des personnes qui font des choses qu'elles apprécient, qu'elles sont reconnues pour ça aussi, par leurs équipes. Voilà. C'est aussi un moyen de reconnaître la compétence de chacun.
On va passer maintenant à la question taboue. Alors, j'ai pu voir sur ton parcours que tu mettais vachement en avant tes diplômes de coach. Oui. Mais est-ce que tu utilises d'autres dons ou une sensibilité particulière pour aider tes coachés, l'énergie ou l'intuition ou d'autres subtilités de ce genre?
Bah beaucoup, beaucoup l'intuition. Et ce que moi je ressens. Donc ça va être la sensibilité effectivement et l'intuition. J'intégrerai bientôt petit à petit. C'est vrai que c'est intéressant de voir comment intégrer d'autres approches. Mais déjà rien que ces deux éléments m'apportent beaucoup dans la façon dont je capte ce que dégage le coaché. Il y a aussi des questions qui sont un peu plus issues de l'approche systémique, ça veut dire on regarde la personne, mais on pose aussi des questions sur comment elle voit son système. Donc je dirais que ce sont peut-être les trois approches qu'on perçoit pas forcément, c'est vrai, sur lorsqu'on se présente en tant que coach, mais c'est vrai que le coach utilise beaucoup. S'utilise beaucoup comme un moyen de percevoir son coaché, qui est pas unique. Donc la façon dont je vais percevoir le coaché, ça va pas être la vérité, mais ça va être ma façon, et le fait que je lui amène ma perspective, pareil, ça va faire bouger un peu son système et puis faire prendre conscience de certaines choses. Et c'est vrai que l'intuition, la sensibilité, le fait de voir des choses, par exemple, notamment non verbales, hein, quand quelqu'un dit quelque chose, et que le corps traduit autre chose, ou on commence à voir des liens entre différents éléments qu'amène le coaché, de pouvoir connecter les choses d'une certaine façon, et puis de le partager, de dire par rapport à ce que j'ai entendu, moi ça me fait penser à, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que t'en dis, et voilà, après ça débouche ça amène une discussion.
Tu parlais justement d'utiliser peut-être d'autres outils au fur et à mesure, voilà, de remplir ta boîte à outils. Tu pensais à quoi? À l'hypnose par exemple, ou ce
tout à fait.
Genre?
Ok. Oui, tout à fait. L'hypnose, en ce qui me concerne, j'aime beaucoup le dessin, donc de dessiner. Un peu comme de la facilitation graphique ou du mind map, par exemple, pour aider la personne à visualiser sa situation et puis ce qu'elle fait dans cette situation. Enfin, où elle se positionne et puis peut-être qu'est-ce qui fait qu'elle s'est retrouvée là à un moment donné, qu'est-ce qu'elle fait qui fait qu'elle reste dans cette situation et qu'elle n'est pas déjà sortie auparavant. Des outils de facilitation visuelle, graphique, et l'hypnose aussi, que je trouve qu'il y a un levier intéressant.
Eh ben super, une belle boîte à outils à venir et déjà construite. Nous arrivons presque à la fin de cette interview. Nous passons maintenant à ce que j'appelle la question girly. Quelle serait ou quelle est ta routine bien-être, ta routine équilibre de type Miracle Morning? Et est-ce que tu as un mantra ou quelque chose qui t'inspire et que tu te répètes tous les jours?
C'est pas forcément un mantra, mais quelque chose que je fais. C'est avant de commencer ma journée, quand j'allume mon ordi et que voilà, je commence ma journée, c'est de d'écrire une question à laquelle j'aurais envie de répondre dans la journée. Là, je partage quelque chose qui peut-être est moins, moins standard. Hein. Après, le fait de faire des to-do list, tout ça, bon, bah, ok, je pense que c'est assez connu, et, etc. Mais ce que je fais là, c'est que j'écris une question à laquelle j'ai envie de répondre. Et puis, je la laisse là à côté de moi. Et au fur et à mesure de ma journée, bah, effectivement, des fois, au fur et à mesure des événements, bah, je regarde cette question et je me dis, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a permis d'avancer par rapport à la question que je me pose? Là, c'est plutôt la synchronicité que j'utilise pour voilà. Donc c'est aussi une approche d'ailleurs, mais du coup j'intègre aussi ça dans ma façon de travailler aujourd'hui.
Super, et ben je connaissais pas cette méthode, cet outil, ce petit tips. Donc la question avant de commencer sa journée et qui nous trotte en tête et voir ce qui vient au fil de l'eau. Super. Eh ben, merci beaucoup. Je sonne le clap de fin de ce podcast, mais avec une nouveauté. Et vous me direz, ben, chères auditrices, ce que vous en pensez. Je conclurai désormais mes épisodes avec le portrait. Tout simplement, une description intuitive et bienveillante de mon invité du jour. Parce que de se connecter et de se reconnecter les unes aux autres, c'est essentiel à mon sens. Et parce qu'apprendre à donner et recevoir, c'est la base de la réussite. Alors c'est parti Evelyne, juste reçois ce que j'ai pu percevoir de toi. Alors déjà, merci pour ton partage et ta présence du jour. Ce que j'ai ressenti, en tout cas, à travers voilà mon enquête et notre échange du jour, c'est vraiment ton écoute active et voire même indéfectible, à analytique, j'ai envie de dire, cette profonde présence et bienveillance. Et j'ai aussi perçu de toi beaucoup de détermination, de structure pour tes coachés. De belles et grandes ambitions pour ce monde et aussi beaucoup de douceur, une sorte de voile comme une bulle toute douce de bienveillance, de protection que tu as envie de, voilà, de partager et de diffuser dans ce monde au niveau personnel, je suppose, mais en tout cas aujourd'hui sur les coachés professionnels que tu accompagnes. Donc, ben, pour tout cela, Evelyne, merci.
Merci beaucoup.
Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver?
Alors, on peut me retrouver sur LinkedIn et via mon site, donc evelynetan.com. Voilà.
Et est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose que nous n'aurions pas abordé?
Ben déjà, merci à toi, Christelle, pour cette invitation à ton podcast. Et voilà, donc ce que j'aimerais laisser, je dirais en dernier message, c'est l'importance de se connaître et de dire que c'est possible de trouver sa place en étant soi, avec sa singularité, et pour vivre voilà en harmonie avec ceux qui nous entourent, ceux qui nous sont chers, ce qu'on fait professionnellement aussi, voilà.
Eh ben merci beaucoup Evelyne pour cette interview.
Merci à toi.
Merci Christelle et Evelyne pour cet échange. J'ai vraiment appris beaucoup de choses. J'ai vraiment surkiffé et il y a notamment des notions qui m'ont énormément parlé. Notamment quand Christelle a évoqué le fait que on arrive tous à un moment de notre vie à être coach de quelqu'un d'autre pour l'accompagner sur son parcours. Et moi, ça me fait penser aux notions les plus importantes que j'ai apprises en école de coaching, qui est le fait d'être vraiment déjà de penser que l'autre est l'experte de sa vie. Donc c'est elle qui a les solutions, c'est pas nous. Je trouve que c'est vraiment déjà un changement de rapport à l'autre qui est très 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 impactant, parce que tout d'un coup on se dit plus que nous on sait mieux que l'autre, c'est non. C'est l'autre qui sait mieux aujourd'hui si prendre telle décision et pas une autre. C'est ce qui est nécessaire pour elle maintenant et tout de suite. Donc déjà le fait de se dire que l'autre est l'experte de sa vie. Et le deuxième point très important que j'ai trouvé, c'est les questions qu'on appelle poser des questions ouvertes. C'est-à-dire des questions qui ne se terminent pas, qui n'amènent pas des réponses par oui ou par non. Et ça, je trouve que c'est vraiment fabuleux, parce que ça amène une exploration du regard de l'autre. Tout d'un coup, on s'intéresse à comment la vie, comment la personne voit la vie de son point de vue. Et je trouve ça super, parce que nous, déjà, ça nous permet de nous enrichir de choses que nous, on n'aurait pas vues et que la personne distingue de son côté. Et du coup, ça permet elle aussi à la personne, vu qu'on lui pose la question, de se poser de se questionner sur ça, en disant ah bonne question, j'avais pas réfléchi à qu'est-ce qui m'intéressait là-dedans et tout. Et donc ça va amener la personne d'offrir cet espace d'accueil et d'écoute en lui permettant en lui montrant qu'elle est l'experte de sa vie et en lui posant des questions ouvertes. Et ben ça va permettre à la personne d'être assertive, de dire ce qui est important pour elle, parce que justement il y a cet espace d'écoute. Donc ça, c'est vraiment un point que j'ai trouvé fondamental dans la vie, quand au moment où Christelle t'a évoqué la question de dans une société idéale où tout le monde serait incluse, comment tu verrais la société, Evelyne? Et ben moi, ça m'a fait penser à ça. Dans une société où on offre un espace d'écoute, on offre des questions ouvertes et on dit à la personne qu'elle est l'experte de sa propre vie. Et ce qui est super, c'est que ça responsabilise la personne en face, parce qu'elle sait qu'elle a un espace parfait pour s'exprimer et qu'elle peut enfin se responsabiliser, parce que il y a aucun carcan autour d'elle. Donc ça, c'est un premier point que j'ai trouvé très très important. Et le deuxième point que j'ai beaucoup aimé, c'est quand Evelyne a parlé des différents accords Toltec, et notamment les choses de ne pas prendre les choses personnellement ou de ne pas faire de suppositions. Et je trouve que en fait, justement, par rapport au fait de prendre conscience qu'on est un profil atypique, parce que moi c'est un sujet qui est très important aussi pour moi, et je trouve que c'est super, parce que quand on comprend que les autres n'ont pas le même fonctionnement que nous, et on se dit que finalement quand ils ont fait quand ils ont eu des comportements qu'on n'a pas compris, et on comprend que ce n'est pas une volonté de leur part de nous nuire. C'est juste que des gens, ils peuvent avoir vraiment des comportements, enfin une façon de réfléchir et de voir le monde totalement différent de nous. Et donc si ils ont fait quelque chose qui nous en apparent nous paraît totalement contre-naturel, contre nature, et quand on comprend qu'on est tous très différents, et finalement ça apaise la relation à l'autre. Ça invite à beaucoup moins prendre les choses personnellement, mais à se dire ah oui, pour moi ça me paraît bizarre comme la personne a fait parce que j'ai un autre fonctionnement, mais du coup moi je vais aller l'interroger, cette personne, pour mieux comprendre son univers, comment elle voit les choses, et comme ça ça me permettra d'avoir une vision plus précise des autres, moins dans le jugement, exactement la même vision que moi, dont moi j'aimerais profiter. Parce qu'en fait parfois on se dit c'est fou comme les gens nous jugent et cherchent pas à nous comprendre, mais en fait quand on s'interroge un peu, on se dit c'est vrai que moi aussi parfois je peux avoir une inclinaison très vite quand une personne fait un truc que moi j'aime pas, tout de suite je peux la juger ou dire c'est n'importe quoi ce qu'elle fait et tout. Alors qu'en fait, si on souhaite plus d'ouverture, de tolérance, d'accueil, et déjà d'offrir ça nous-mêmes, ça permet, je trouve, d'être hyper cohérent, de demander ça en retour. Donc voilà, ça c'est des notions qui m'ont vraiment énormément marqué, l'écoute qui permet l'assertivité. Et le fait de se servir des différences de fonctionnement, non pas pour se dire ok, l'autre est différent de moi, il me comprendra jamais, mais justement pour développer une forme d'écoute, de tolérance, la même qu'on aimerait recevoir au quotidien. Voilà, merci beaucoup et continuez à exposer le cadre.
Je vous ai synthétisé les apprentissages de cet épisode en un plan d'action en trois étapes. En 1, trouver sa place. Et oui, un bien grand programme, me direz-vous. Je pense que pour trouver sa place, la première étape est d'être responsable. De prendre pleinement la responsabilité de ce qui se passe dans votre vie. Que vous avez votre part dans ce qui se passe, une pensée, une action, pour avoir attiré cette situation. En agissant ainsi, vous devenez acteur, vous vous mettez en mouvement. Être responsable, c'est de se dire « Ok, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que je peux faire pour y remédier ?» Pour que cette situation devienne agréable. Que puis-je faire pour atteindre mon objectif et avancer ? En deux, être assertive. Je vous ai repris une définition pour clarifier ce terme. C'est d'avoir une attitude, une posture d'affirmation de soi tout en respectant l'autre. C'est savoir s'affirmer en ayant une attitude respectueuse envers les autres, dans le but d'avoir des relations apaisées. Pour se sentir bien avec soi et les autres, Evelyne nous a partagé deux outils. La communication non violente et l'application des 4 accords Toltec. Pour rappel, en 1, que ta parole soit impeccable. Justement, on peut s'aider de la communication non violente pour cela. De ne rien prendre personnellement. En 2, la personne a dit quelque chose, a exprimé quelque chose, et son objectif n'était sûrement pas de vous atteindre. 3, ne pas faire de suppositions. Justement, la personne a exprimé quelque chose, nous l'avons mal reçu. Mais quelle était son intention première, nous ne le savons pas tant que nous ne lui avons pas demandé. En 4, fais toujours de ton mieux. Ainsi, votre conscience sera tranquille. Ces outils ont pour ma part changé ma vision de la relation et de la communication avec l'autre. Grâce à eux, j'ai su prendre ma place et je continue. En 3, devenez votre propre coach. Si les choses ne sont pas claires, les paroles d'une personne, votre objectif, votre vision, une situation, posez des questions ouvertes à la personne pour avoir son point de vue, pour pouvoir remettre les choses en perspective. Comme le conseille Evelyne, vous pouvez également écrire une question en début de journée et attendre la réponse. Cela vous permet de libérer votre mental, de lâcher prise, de faire confiance et surtout d'être attentive à ce qui va se présenter. Ces 3 sujets me passionnent. J'aurais pu y passer des heures à vous parler de tout ça. J'aurais pu faire 3 épisodes, chacun sur un de ces thèmes, tellement je suis captivée par ce monde. Si jamais ça vous intéresse ou que vous souhaitez me laisser des commentaires bienveillants et d'encouragement, vous pouvez nous laisser tout ça par mail à exploselecadre@gmail.com. Un grand merci pour nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Retrouvez l'épisode et tous ses conseils sur le site internet christelleattic.fr/podcast. Vous y retrouverez toutes les informations et les liens vous permettant d'aller creuser un peu plus loin les enseignements reçus. Vous l'aurez compris, l'objectif de ce podcast est de vous donner beaucoup de contenu inspirant pour vous aider dans votre remise en question et vous faire sortir de votre zone de confiance pour explorer le monde. Si vous avez trouvé cet épisode enrichissant, je vous invite à 3 actions qui nous aident beaucoup dans notre mission. 1. Partagez cet épisode à une amie qui pourrait être inspirée par son contenu et ses conseils. 2. Vous abonnez au podcast sur la plateforme de votre choix pour recevoir les prochains épisodes. Et surtout, en 3, nous laisser un commentaire bienveillant et 5 étoiles sur iTunes pour nous encourager. Alors, en attendant l'épisode du mois prochain, keep cool!